Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous allons tenter d'ouvrir la machine ChatGPT pour mieux comprendre ses enjeux techniques, économiques et éthiques. ChatGPT est un agent conversationnel qui utilise l'intelligence artificielle pour répondre à toutes vos questions en un clic et qui parvient à simuler l'écriture humaine. Cette technologie fascine, surprend, inquiète et fait l'actualité depuis plusieurs semaines. Mais s'agit-il réellement d'une innovation de rupture? Qui se cache derrière OpenAI, l'organisation à l'origine de ce programme? Pourquoi Microsoft compte investir 10 milliards de dollars dans cette machine pour mieux la décliner sur nos mails ou moteurs de recherche? Et comment les autres GAFAM s'apprêtent-ils à riposter? Quel est le modèle économique et ses dérives? Enfin, comment ne pas s'inquiéter des potentiels dangers d'un tel outil dans les mains de cybercriminels ou de spécialistes de la manipulation? Beaucoup de questions et trois invités pour y répondre. Tariq Krim, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un pionnier du web, ancien vice-président du Conseil national du numérique et entrepreneur. Vous pourrez revenir sur l'histoire de la société OpenAI fondée par des acteurs célèbres de la Silicon Valley que vous avez bien connu et sur le coût marketing pour Microsoft tout en nous éclairant sur le concept de domination cognitive suscitée par l'intelligence artificielle. Chloé Clavel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure enseignante et chercheuse à Télécom Paris où vous coordonnez le thème Social Computing. Vous pourrez nous expliquer en détail le fonctionnement de ChatGPT et la manière dont l'humain est mis à contribution dans l'apprentissage de la machine. Enfin, à distance. Depuis la Suisse, Len Nguyen Wang, est-ce que vous me recevez? Bonsoir.
Oui, bonsoir, je vous entends.
Super, Len Nguyen Wang, vous êtes docteur en mathématiques, auteur de l'ouvrage notamment Turing à la plage et vulgarisateur scientifique sur YouTube. Vous pourrez nous alerter sur les dangers que représente selon vous la forte publicité autour de ces outils qui restent encore très opaques et revenir sur l'importance des algorithmes éthiques. Au programme également, les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama, qui va nous présenter un film de 2014 qui l'a particulièrement marqué. Il s'agit de Ex Machina, et vous voyez, on reste dans la thématique. Alors merci à toute l'équipe que je vois là dans la régie ce soir, et ils sont nombreux car il s'agit du lancement officiel du Meilleur des Mondes sur la chaîne Twitch de France Culture, que je vous invite à rejoindre dès maintenant si vous le désirez. Le lien a été posté sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Notre émission s'écoute, se regarde, se vit en direct, ou le samedi, ou encore en podcast sur l'application Radio France. Bref, nous sommes plus que jamais à vos côtés pour susciter interaction et réflexion. Le meilleur des mondes, version augmentée, c'est parti.
La famille, vous avez entendu parler de la nouvelle intelligence artificielle ChatGPT?
Let me introduce the ChatGPT revolution.
Non mais sérieusement, oubliez vos Siri et vos chatbots de pacotille là, parce que là maintenant, on a atteint un autre level.
Un vent de panique souffle sur le monde entier qui n'a qu'un seul mot à la bouche, ChatGPT.
Là, pour moi, on est devant une des plus grosses révolutions que j'ai jamais vues.
Bonjour ChatGPT.
Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis capable de comprendre et de générer du langage naturel pour répondre à des questions et accomplir des tâches liées au langage.
Il a répondu à toutes les questions, même les plus pointues, a écrit des poèmes à la demande, des essais universitaires et même fait des blagues.
Alors d'où nous sort ce nouveau service de chat 5.0 venu de l'intelligence artificielle? Eh bien c'est OpenAI, une entreprise leader de l'intelligence artificielle qui compte parmi ses fondateurs Elon Musk. Mais je vous rassure tout de suite, le bug ne fait plus partie du comité d'administration.
Faut rappeler que ça n'a aucune conscience, il ne comprend rien bien évidemment. Si on lui demande pourquoi tu as choisi tel et tel argument, il est incapable de se justifier.
Non c'est pas possible, non. On est dans Terminator là, le jugement dernier les gars, c'est terminé là. C'est fini là, l'IA c'est terminé les gars. C'est fini, les gars. C'est fini. C'est terminé. C'est fini.
C'est fini, pourtant ça commence notre émission donc consacrée à ChatGPT et ses enjeux. ChatGPT qui est ouvert et lancé à tous depuis le 30 novembre 2022, on l'a dit, par OpenAI. Maintenant, je suis encore certain qu'il y a de nombreux auditeurs, des auditrices qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore ce ChatGPT qui a pourtant défrayé la chronique. Donc il faut bien commencer par un peu de vulgarisation, Chloé Clavel. C'est sur vous que ça tombe. C'est quoi exactement ChatGPT et comment cela fonctionne dans les grandes lignes?
Alors, vous m'interrompez si je suis trop longue parce que je pourrais en parler très longtemps. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, c'est que ça repose sur une grosse quantité de données, surtout. Des données textuelles qui ont été écrites par des humains et qui ont été collectées par les entreprises et ou par les académiques. Et en tout, alors si on regarde ce qui se passe au niveau de la première couche du modèle, il va y avoir 300 000 milliards de mots qui ont été utilisés pour construire le modèle de langue. Qu'est-ce qu'un modèle de langue? C'est ça permet de prédire le mot qui arrive après une autre séquence de mots. Donc par exemple, quand vous écrivez un message et que votre outil vous propose le mot d'après, bonjour, comment ça va, voilà.
Donc, oui, c'est ce qu'on a tous l'habitude de vivre avec, par exemple, nos SMS.
Exactement.
Le prédictif. Donc là, on a sur ce nombre ahurissant, justement, de mots, avec une logique prédictive.
Exactement.
En fonction de la récurrence, les probabilités, j'imagine.
Voilà. Un autre exemple que j'aime bien donner, c'est celui des Schtroumpfs. Quand, dans la BD des Schtroumpfs, quand on cache, est caché un mot et est remplacé par le mot Schtroumpf, mais on arrive à deviner le mot qui est caché en fonction du contexte. Donc, on a ces gros, ce modèle de langue qui a été appris sur ces, sur un grand nombre de données. Donc des données qui sont de Wikipédia, des données qui ont été crawlées sur le web, des données de livres. Et ensuite, derrière, ChatGPT a aussi ouvert l'interface au public et collecté également, dans ses versions précédentes, un grand nombre de données et de tâches à résoudre. Et aussi, également, énormément d'annotateurs derrière qui vont guider le modèle.
D'accord, alors là on a compris je pense une première grande base, quelque chose d'intéressant et d'important, Tariq Krim, ChatGPT n'est pas connecté à Internet en direct, c'est-à-dire que si j'ai bien compris c'est des données qui ont été peut-être qui ont pu être prises sur Internet, rentrées dans la machine, mais il n'est pas comme un moteur de recherche directement connecté à Internet.
Absolument, d'après ce qu'on en a compris, on s'arrête en 2021. Et effectivement, une des questions...
Toutes les des données, effectivement, jusqu'à 2021, il n'y a pas de données de 2022. Donc si on lui demande un événement de 2000, qui s'est passé qu'en 2022, il n'est pas capable de me trouver.
Amnésique, absolument.
Si je demande qui a gagné la Coupe du Monde de football, il n'est pas capable.
Il ne le sait pas, oui, absolument. Mais ce qui est fascinant, c'est que, effectivement, ce modèle, cette façon donc, de marketer l'intelligence artificielle, parce qu'il faut quand même rappeler... que l'intelligence artificielle, c'est devenu un peu un mot valise dans lequel on inclut plein de choses qui parfois en sont et parfois n'en sont pas toujours. On parlait avant de big data, on a parlé de plein de choses différentes. Et une des définitions que je trouve intéressante pour expliquer ce qui différencie l'intelligence artificielle d'un programme classique, c'est que quand on est dans de l'intelligence artificielle, en fait, le programme que l'on exécute, ou en tout cas ce qu'on va exécuter, va faire plus que ce qui lui est demandé. Typiquement, quand on a un programme, on réfléchit à un résultat, on s'assure que le résultat est le même, alors que quand on est dans des outils d'intelligence artificielle, effectivement, la machine peut vous prédire des choses ou faire des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Alors, parfois, ça marche. Parfois, on en parlera tout à l'heure, ChatGPT a des hallucinations. Moi, je lui ai demandé, par exemple, de me réécrire ma bio et il a expliqué que j'avais vendu une de mes boîtes à Atari, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais on peut se poser la question parfois.
Mais il a bien trouvé quelque part cette information-là.
Il l'a, alors...
Il ne l'a pas inventé.
Il l'a, disons qu'il a, dans son travail de consolidation de toutes ces informations. Il y a, alors, je sais pas, on peut pas vraiment parler de bug, mais j'appelle ça des hallucinations. On avait un peu ça quand la version visuelle de ChatGPT, c'était le projet DALL-E. Enfin, il y en a plusieurs. Et quand on regardait, donc, on demandait à cette machine, donc, on lui demandait simplement en écrivant, montre-moi quelqu'un, un personnage. Les mains, en fait, n'avaient jamais cinq doigts. Elles avaient deux doigts, trois doigts, dix doigts. Enfin, c'était pas toujours très pratique. Et donc, ce qu'on voit, ces artefacts visuels que l'on peut voir sur ces applications, on les zappe de temps en temps.
Aussi sur des éléments,
textuels.
Même si ce serait intéressant de reprendre votre terme d'hallucination, parce que c'est presque un anthropomorphisme, puisque finalement vous considérez ChatGPT comme un humain qui aurait des hallucinations, et on voit que ça peut faire partie aussi du problème. Lan Nguyen Wang, vous qui êtes un vulgarisateur scientifique, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter déjà dans cette première définition contour de ChatGPT? Je rappelle quand même, pour ceux qui ne l'auraient jamais utilisé, que ça fonctionne en fait, comme un agent conversationnel, c'est que vous posez des questions par écrit et que ce robot, ce programme, cette intelligence vous répond par écrit. Ça, c'est vraiment pour ceux qui n'auraient jamais testé.
Ouais, alors juste peut-être pour ajouter, je dirais deux choses. La première chose, c'est que dans la première phase qui a été expliquée, c'est probablement beaucoup de données, c'est certainement beaucoup de données téléchargées du web, et en particulier probablement beaucoup des réseaux sociaux. En tout cas, Google, qui avait fait un exercice similaire, avait eux révélé avoir utilisé beaucoup de données des réseaux sociaux, ça a composé la moitié de leur base de données. Et donc, dans cette version initiale, qui est vraiment entraînée à imiter les textes du web, on a un algorithme qui apprend à imiter ce qu'il y a sur le web. Et bon, si vous traînez un peu sur le web, notamment sur Twitter ou sur d'autres réseaux comme Reddit, vous savez que tout n'est pas forcément souhaitable à généraliser de ces réseaux sociaux. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que, si j'ai le temps...
Bien sûr, allez-y, on a une heure.
Cette deuxième phase de ce qu'on appelle du fine-tuning dans le langage technique, c'est avec des imitateurs humains, finalement c'est la phase d'éducation, c'est la phase où l'éthique de l'algorithme tente d'être programmée d'une certaine manière, et là il faut bien se rendre compte que l'éthique du coup qui sera programmée dépend des imitateurs humains ou des consignes qu'ils ont suivies. Et donc ça soulève toutes sortes de questions dans la conception de ce genre d'algorithme.
Je rebondis sur deux choses. Peut-être tout de suite pour éclaircir ce point, les réseaux sociaux, parce que vous affirmez, Lan Nguyen Wang, que ChatGPT utilise donc des données qui sont issues de nos réseaux sociaux, c'est-à-dire concrètement des textes qu'on a pu publier sur Facebook, sur Instagram, sur Reddit. On est sûr de ça, que les données des réseaux sociaux sont aspirées aussi, traitées par ChatGPT?
Alors, malheureusement, c'est difficile d'être sûr de ça, puisque OpenAI reste très opaque sur la nature de ces données. Mais toutes les expériences du passé, parce que ChatGPT s'inscrit dans une lignée d'algorithmes de langage. Donc, il y en avait beaucoup avant lui, BERT, GPT-2, GPT-3, et ainsi de suite. Et tous ces algorithmes conçus dans le passé s'appuyaient sur ce genre de données, notamment tout ce qui est réseaux sociaux publics, où les données publiées sont publiques, comme par exemple Twitter ou Reddit.
Alors, ce qui peut justement renforcer cette thèse, c'est les déclarations récentes d'Elon Musk, qui a été d'ailleurs un des tout premiers investisseurs d'OpenAI avant de se retirer, qui lui a récemment refusé l'accès de la plateforme Twitter aux outils OpenAI. C'est-à-dire qu'il a, maintenant, il est bien sûr le patron de Twitter. Donc ça veut dire que s'il refuse justement qu'on exploite sa plateforme nouvellement achetée par OpenAI, ça pourrait effectivement confirmer l'idée que les éléments textuels des réseaux sociaux sont utilisés. Chloé Clavel, sur cette question, on a des informations?
Alors, je pense qu'ils ont fait attention à avoir des données qui soient pas trop bruitées en termes au niveau langagier, puisque ChatGPT fait rarement de fautes d'orthographe, voire pas du tout, je crois.
Bruité, ça veut dire quoi?
Bruité dans le sens où, si on prend n'importe quel utilisateur qui tweet ou qui écrit, on n'est pas sûr de l'orthographe. Donc, bruité dans ce sens-là, quoi. Bruité dans le sens où on peut avoir un écart à la syntaxe classique de l'écrit, alors que finalement, ChatGPT est quand même assez classique dans sa façon de construire sa syntaxe. Donc,
ça, c'est effectivement un inconvénient peut-être dans le vraisemblable d'utiliser les contenus issus des réseaux sociaux. Partons dans le positif, ou du moins le positif pour eux, pour être au plus proche de la vie des gens, c'est que c'est sur les réseaux qu'on a aussi des tendances, qu'on a aussi des formulations. Et donc dans le prédictif, on a aussi un prédictif de l'usage qui n'existe bientôt que sur les réseaux sociaux, moins dans les dictionnaires.
Oui, exactement. Et c'est surtout aussi que les instructions qui ont été soumises aussi via l'interface, où les gens sont mis à aussi, des chercheurs se sont mis à poser des questions pour voir comment pour tester le modèle de langue qu'il y avait derrière. Ils ont soumis aussi des tâches en langage naturel, parce que derrière ChatGPT, il y a aussi toutes ces instructions en langage naturel. C'est-à-dire, si on veut classer un document en est-ce que c'est une fake news ou pas, avant, on faisait un modèle d'apprentissage qui classait le document, un modèle fake news, pas fake news, quoi, si pour essayer de rester simple. Là, on va formuler n'importe quelle tâche en une question. Et ChatGPT est censé, du coup, répondre à toutes les tâches de classification. Donc, on lui met le document, on lui dit est-ce que c'est une fake news, et ensuite, il essaye de répondre. Après, voilà, la véracité de la réponse.
Quand on lui dit on lui met, c'est là où effectivement on se rend compte qu'on a besoin d'énormément d'humains, bien sûr, pour contrôler, pour vérifier.
Alors, on a besoin d'humains pour soumettre ces tâches et également des humains derrière. Alors, dans le chat GPT, il y a aussi des humains qui ont, vu les sorties des modèles, réécrit les sorties des modèles pour les sorties générées par les modèles. Ils les ont réécrits de manière correcte, ils les ont corrigés. Et derrière, donc, il y a une couche aussi d'apprentissage par renforcement qui va, avec ces retours humains, orienter le modèle à fournir les bonnes réponses. Et donc, plus on va avoir de données, plus on va avoir aussi d'annotateurs humains qui orientent le modèle vers les bonnes réponses, mieux il va marcher.
Voilà. C'est ce qu'on appelle effectivement en anglais le reinforcement learning with human feedback, que vous connaissez
exactly.
bien. Oh yeah, Tariq Rimbouillet, réagir.
Non, oui, plusieurs choses. Mais tout d'abord, une des sources inépuisables d'informations et de contenu, c'est souvent, en fait, YouTube. On va scanner YouTube, donc la transcription, puisque YouTube est capable de faire la transcription de tous les textes qu'ils ont. Et donc, à partir de là, on dispose d'énormément, d'une masse de données importante. Et je voulais justement, à cet égard, rappeler une chose intéressante, c'est que quand Google Books est sorti il y a 10-15 ans, tout le monde avait peur, on poussait des cris, on dormait en disant « ça y est, Google va faire une nouvelle bibliothèque ». Ils veulent télécharger et pirater tous les livres, parce que c'était aussi l'époque du pair à pair, donc de Napster et de tout ça. Donc on s'est dit, mais pourquoi ont-ils besoin de tous ces livres? Et en fait, le produit final, ça a été Google Translate. C'est-à-dire qu'on a utilisé toute l'analyse de ces livres et des traducteurs. Et donc, en fait, tout le travail des traducteurs, Proust, à la recherche du temps perdu, a été traduit dans toutes les langues. Donc ça devient un outil extraordinaire pour analyser, comparer. Et ensuite, on a réutilisé ça, réinjecté ça avec les gens. À chaque fois que vous avez une traduction, on vous dit « est-ce que c'est la bonne traduction ?» Mmh. En tant qu'être humain, vous contribuez. Et d'une certaine manière, avec ChatGPT, il y a plusieurs questions déjà qui se posent. La première, c'est que quand ces nouveaux modèles, ce qu'on appelle les modèles de Large Language Model, donc LLM, il y a plusieurs visions qui s'opposent. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été virés à l'époque de Google, il y a quelques années, pour avoir posé des questions sur... Quel type de contenu va-t-on indexer, puisque ensuite la machine va ressortir tous ces éléments. Et est-ce qu'on garde des modèles assez petits ou est-ce qu'on fait, on va à la conquête de ce qui est le plus gros. Donc il faut scanner voilà. un maximum. Et c'est le même problème des réseaux sociaux, puisqu'on en avait déjà parlé il y a la dernière fois ici. C'est que le problème, c'est que dès que les réseaux sociaux sont devenus des réseaux qui font interagir des milliards de personnes, on ne peut plus véritablement suivre. Et je voulais juste revenir sur la question de la vérification humaine. Il y a un article du Time qui est sorti il y a quelques jours qui indiquerait que c'est au Kenya, un pays à 2 dollars de l'heure. Ce sont le renforcement. Donc il y a toujours cette fascination d'un côté, le marketing très high-tech dans la Silicon Valley. Et derrière, le fine-tuning, enfin, ou en tout cas, l'utilisation au Kenya de gens qui sont payés 2 dollars de l'heure pour repérer et détecter les erreurs.
Effectivement, le Times a révélé que OpenAI aurait signé 3 contrats avec un partenaire du réseau social, la société Sama, qui est connue.
Sama Source,
qui emploie, elle, bien des travailleurs au Kenya, peut-être des dizaines de milliers de personnes. C'est les fameux travailleurs du clic dont Antonio Casilli parle si bien, et je renvoie bien sûr à ses travaux. Et c'est toujours cette même idée, mais qu'il est toujours intéressant de briser. Dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas vraiment d'intelligence. Dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'instantanéité miraculeuse de la machine. Il y a des hommes derrière pour vérifier. Il y a des hommes précaires derrière qui permettent d'être les petits rouages et qui permettent à la machine d'avancer. Léa Nguyen Wang, je vais vous donner la parole juste après avoir écouté le patron, on va dire, d'OpenAI, Sam Altman, qui parle justement du modèle économique.
I think like a category of people are Je pense que la catégorie que les gens connaissent le plus maintenant est celle des générateurs d'images. Vous pouvez sortir et demander à une personne artistiquement talentueuse de générer des images pour vous. Mais cela a pris un certain temps et c'était loin d'être gratuit. Et je pense que l'une des choses que nous voyons et qui est encore valable pour une grande partie de la technologie, et que, lorsque vous faites quelque chose beaucoup plus rapidement et beaucoup moins cher, c'est un changement qualitatif de ce qui est possible.
Est-ce que c'est vrai qu'on peut se poser cette question, Len Guen Wang, du modèle aussi économique derrière ChatGPT? Qu'est-ce qu'on sait justement de ce modèle? Est-ce que ça coûte cher? Comment c'est financé? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement d'OpenAI, qui était complètement inconnu au bataillon du grand public il y a encore quelques semaines?
Je pense qu'il faut se dire aussi que la conception de ces modèles aujourd'hui coûte très cher, surtout en électricité, parce qu'en fait, vous faites vraiment tourner des serveurs pendant très longtemps. Donc souvent, les modèles, on les estime à quelques millions d'entraînements, de dollars d'entraînement. Peut-être pour ChatGPT, ils sont peut-être montés à des dizaines de millions, peut-être même plus. Sachant cela, ils ont sans doute également investi énormément, peut-être le même ordre de grandeur dans des annotations humaines, dans des humains pour justement fournir les données dont vous parliez plus tôt. Et donc, sachant toutes ces dépenses, ça pose la question de la rentabilité du modèle d'affaires de ce genre de produits. Et là où c'est assez inquiétant, c'est que ce sont des produits general purpose, c'est-à-dire à but assez général, qui peuvent être réutilisés à plein d'applications. Et malheureusement, il se trouve que dans le numérique aujourd'hui, si on regarde les plus gros business qu'il y a à faire, ce sont souvent des marchés qui posent certains problèmes. Donc d'un côté, il y a la publicité ciblée qui est en fait le gros des profits de la plupart des grandes entreprises de la tech, et en tout cas celles qui ne le font pas aujourd'hui s'y mettent petit à petit. Et puis de l'autre, il y a un marché encore plus grand qui est le marché du cybercrime, qui est estimé aujourd'hui à 6 000 milliards de dollars par an. Donc 6 000 milliards de dollars, c'est 4 fois Google plus Amazon plus Facebook plus Apple plus Microsoft combiné. Donc on peut s'inquiéter des applications potentielles de ce genre de technologie, notamment pour faire des arnaques en ligne.
Alors on y reviendra justement dans de cybercriminalité, parce que je crois que c'est intéressant aussi de dire que ChatGPT a la particularité de pouvoir aussi faire du code, et on verra comment ce code peut être employé. Juste un mot, Len Guen Wang, parce qu'on parle d'OpenAI depuis tout à l'heure. Vous pouvez nous dire d'OpenAI les origines, l'historique? Donc j'ai dit tout à l'heure qu'Elon Musk était dans l'aventure au départ, mais qu'est-ce qu'on connaît de cette organisation qui, je crois, à l'origine d'ailleurs était à but non lucratif?
Oui, à l'origine, OpenAI se présentait à but non lucratif et se présentait aussi comme voulant le bien de l'humanité, donc vouloir faire des algorithmes bénéfiques pour tous.
Voilà, rendre le monde meilleur, quoi.
Mais rendre le monde meilleur, exactement. essayer d'avoir le meilleur des mondes. Mais au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte. Enfin, déjà dès le début et assez rapidement, en fait, il y a eu beaucoup d'opacité. Il y avait quelque chose d'assez étrange dans l'organisation de cette organisation. Et petit à petit, ils sont devenus à cap profit. Donc, et puis ensuite, Microsoft a investi $1 milliard dans OpenAI, avec maintenant des pressions forcément pour rentabiliser ces investissements. Donc ça s'est vraiment transformé de plus en plus en quelque chose d'ironiquement beaucoup moins open que beaucoup d'autres entreprises engagées dans ce genre de produit.
Chloé Clavel, justement, cette opacité, c'est pas simple justement d'arriver à travailler quand même sur ces outils, parce qu'on dispose, autant eux, ils ont des milliards de données sur nous, autant nous, on a très peu de données sur eux et la manière dont ça fonctionne.
Alors, la plupart des modèles pré-entraînés, donc des modèles de langue qui sont à la base, les modèles généralistes, sont des modèles que l'on peut tester. Qu'on peut regarder, essayer d'observer. Donc c'est vrai que la recherche se met quand même beaucoup ces dernières années à développer des méthodes de machine learning dites explicables, ou d'essayer d'expliquer aussi ce qu'il y a derrière ces gros modèles. Donc c'est des gros modèles qui sont très complexes. Si on regarde ChatGPT, on a 175 000 milliards de paramètres pour le GPT-3, donc pour la première couche. Donc, une fois qu'on a cette usine à gaz avec plusieurs couches, comment essayer de comprendre ce qui se passe à chacun des niveaux. On peut essayer de regarder ce qu'il y a dans les représentations. Essayer de voir s'il n'y a pas des biais de stéréotypes qui sont mis dans les représentations de certains mots. Regarder, vérifier aussi que les on peut tester en fait les prédictions des modèles, regarder si les modèles n'ont pas tendance à ignorer certains groupes sociaux ou sous-représentés dans les données. Donc il y a des méthodes qui sont faites pour tester de manière locale. Mais si on prend l'ancêtre de l'intelligence artificielle avec des modèles où avant c'était vraiment des modèles à base de règles où on avait vraiment la sortie et puis on pouvait retrouver la règle et puis elle était interprétable. On pouvait faire un petit template qui générait un texte et puis on pouvait comprendre comment le texte avait été généré. Là, on peut plus avoir cette vue complète de comment la sortie est générée parce que c'est des modèles qui sont orientés vers les données et ils émergent de plein de données et c'est des modèles statistiques. Donc, c'est pas des hallucinations. Finalement, c'est vraiment au niveau statistique ce qui émerge. Et ça, on contrôle pas forcément ce qui va émerger d'autant de données au niveau statistique.
Oui, si je résume, c'est comme si on était noyé finalement par une sorte de pléthore de données qu'on avait du mal un petit peu à retrouver le chemin et à retracer justement les routes.
Exactement.
Face qu'à un énorme champ de maïs avec une petite épingle tout au bout qu'on a du mal à voir. On a entendu justement dans les médias, et ça a été bien illustré par Camille Mathy, notre réalisatrice au démarrage de cette émission, l'engouement médiatique très fort autour de ChatGPT. On parle d'innovation de rupture. Est-ce que Tariq Krim, c'est une véritable révolution ChatGPT ou c'est le prolongement d'une histoire déjà longue de l'intelligence artificielle et comment on peut l'expliquer cet engouement médiatique? C'est un coup de com' aussi?
Oui, probablement un coup de com' aussi, mais je voulais revenir sur une anecdote puisque le ChatGPT c'est un peu le grand-père de ChatGPT, c'est un peu le programme ELISA qui avait été inventé par Joseph Eisenbaum dans les années 60. Et il y a une anecdote qu'on m'avait racontée au MIT que je trouvais très intéressante.
Le Massachusetts
Institute of Technology, là où ça a été développé.
Boston.
C'est qu'il a fait tester ELISA par sa secrétaire. Et donc, en fait, le système d'ELISA était assez simple, était basé sur une méthode. C'était Carl Rogers, le psychologue, qui demandait à chaque fois à ses... aux gens qui le consultaient de répéter les phrases. Et donc, il jouait là-dessus pour que les...
C'était déjà une forme d'agent conversationnel. Hein.
Absolument.
Et d'ailleurs, on lui a donné un prénom, comme vous dites, ELISA. Donc, absolument. On avait l'impression de se confier à ELISA. Et ELISA, je crois, ne faisait que répéter en fait, la question pour mieux suggérer une autre
c'est
réponse.
C'est cela. Mais il y avait une vision d'ailleurs très intéressante. C'est que c'était à la période de la guerre du Vietnam, on pensait que ce genre d'outils allait... Dans le cas de pouvoir aider à soigner psychologiquement les soldats qui revenaient du front. Mais l'anecdote que je trouve intéressante, c'est qu'il l'a donc fait tester à sa secrétaire et elle commence à taper et répondre. Et lui, évidemment, créateur du produit, s'approche de l'écran et elle le regarde et lui dit « Excusez-moi, je suis en train d'avoir une conversation ». Et donc, dès ce moment, alors qu'on était face à un automate, dès ce moment, il a compris effectivement que la perception ou la façon dont on allait présenter un produit pouvait avoir un impact. Et ce qui est fascinant avec ChatGPT, alors, comme on l'a très bien expliqué, c'est au départ, c'est pas uniquement créé par Elon Musk, hein, c'est créé par Elon Musk, Reid Hoffman, qui est donc le fondateur de LinkedIn, et Peter Thiel, qui a été un des grands donateurs de Donald Trump.
Un des grands argentiers de la Silicon Valley,
absolument.
Libertarien par ailleurs, un peu transhumaniste, misogyne aussi, on peut le dire.
Oui, en tout cas, quelqu'un qui a mis vraiment des billes un peu partout, notamment dans Facebook, puisqu'il était encore dans le...
Un des premiers investisseurs de Facebook.
Et dans le conseil d'administration de Facebook. Et donc, dès le départ, effectivement, au départ, on avait une vision très... on va dire finalement assez classique, Californie, nous allons améliorer le monde en recherchant, en combattant les dangers potentiels de l'IA, puisque c'était une des obsessions d'Elon Musk avec le fait que l'on vit vrai dans une simulation informatique. Et très rapidement, effectivement, le modèle a basculé dans un modèle plus classique, et donc un modèle où on va dépenser énormément d'argent au départ pour se distancier des concurrents. Et ensuite, une fois qu'on a établi la marque, le produit, alors il y a eu plusieurs essais, ça coûte beaucoup d'argent. On a découvert, je crois, le mois dernier que la facture que OpenAI payait à Google Cloud, c'était 120 millions de dollars par an, en tout cas en 2022. Et effectivement, une fois que cette approche marketing a bien fonctionné, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft, qui avait investi déjà 1 milliard dans OpenAI, alors pour eux, c'est absolument rien. C'est une boîte qui vaut plus de 1000 milliards, qui vaut plus d'un trillion de trillion au sens américain, donc 1000 milliards, hein, je précise. pour eux, c'était une opération de marketing fantastique, parce que non seulement l'accord qu'ils ont fait a éjecté Google comme opérateur d'OpenAI, mais leur permet d'expliquer à l'ensemble de leurs clients, vous voyez ce produit incroyable qui s'appelle ChatGPT, dont tout le monde a entendu parler, non seulement vous pouvez l'utiliser chez nous, mais vous avez maintenant l'acteur Microsoft et l'acteur qui est capable de se positionner sur la nouvelle génération de produits en intelligence artificielle. Donc, au-delà de la technique, au-delà du fait que Google, on en parlera peut-être, a déjà en interne des modèles.
Des ressources peut-être similaires.
Et ont déjà d'ailleurs des produits, mais ont hésité à les lancer parce qu'il y a un produit qui s'appelle... qui est basé sur un modèle qui s'appelle Lambda, ils ont eu un petit souci, puisque l'année dernière, ils ont viré quelqu'un qui expliquait que Lambda, en fait, était un être sentient, donc capable de sentience, et effectivement, ils ont...
Ah oui, c'est quand il y avait effectivement l'ingénieur qui avait dit que la machine avait une conscience, et que
exactement.
Derrière, qu'il a été sorti de la boîte. Juste, Nguyen Wang, quand, par rapport à cet engouement médiatique, on a bien compris, effectivement, ce que nous dit Tariq Krim, que derrière, pour Microsoft, c'est aussi un coup marketing, une manière d'avoir une longueur d'avance, du moins dans la perception du public, puisqu'on comprend bien que les autres GAFAM ont eux aussi leurs propres outils. Comment on explique que justement ce soit Microsoft qui communique, que les autres ne communiquent peut-être pas encore sur cette question-là ?
Oui, je pense que d'une certaine manière, OpenAI est encore petit, hein, comme par rapport à Microsoft ou par rapport à Google. Et du coup, il y a beaucoup moins de risques de backlash pour eux de lancer quelque chose comme ça.
De retour de bâton,
oui, pour d'avoir lancé quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que Google a déjà donc Lambda en interne. Mais à Google, il y a même un projet plus fondamental qui s'appelle Pathways, dont le but, c'est à terme de faire en sorte que Pathways, donc ça serait une énorme intelligence artificielle qui serait capable de faire beaucoup des services de Google. Donc quand on pense Google, bon, bien sûr il y a Google Search, mais finalement une grosse partie aujourd'hui des revenus de Google, c'est beaucoup plus la publicité ciblée, qui est un énorme défi technique et qui requiert l'apprentissage des préférences et des habitudes et aussi des tendances du moment pour des milliards d'individus. Donc en fait c'est une tâche extrêmement compliquée également, tout ça en temps réel. Et également tout ce qui est recommandation de contenu sur YouTube, qui est également un des gros aspects de Google pour avoir l'attention de beaucoup d'utilisateurs. Donc il y a aussi clairement des projets peut-être plus ambitieux encore, puisque ça touche vraiment à des choses déployées, utilisées par des milliards d'utilisateurs chez des entreprises comme Google.
D'accord, donc ça veut dire que on va voir arriver sans doute d'autres outils, d'autres produits. On a bien compris que vous qui êtes dedans, ils existent déjà, mais le grand public va sans doute découvrir ces produits, ces outils, une fois peut-être que la technologie sera un peu plus mature, parce que peut-être que là, Google et sans doute que Facebook, la question a été posée à nos viewers sur Twitch, nous sommes actuellement aussi diffusés en direct, de Meta, qui est peut-être lui aussi sur le coup. Donc ils attendent peut-être avant de communiquer aussi massivement sur ces produits-là, Len Guyen Wang.
Ça peut être ça, mais ça peut simplement être le fait que le produit vraiment lucratif n'est pas un chatbot. Le produit vraiment lucratif, ça reste le placement publicitaire. Et donc, il y a probablement des choses qui, en fait, sont sophistiquées d'une autre manière et qui sont impressionnantes, mais de façon pas spectaculaire. Mais pour une entreprise comme Google, si ça fait augmenter leurs profits, c'est en fait très spectaculaire et très intéressant pour eux.
Et bien, on suivra.
Je pense qu'en fait, une des craintes que j'aurais, c'est qu'on se méfie pas assez de ces intelligences artificielles, de ces outils algorithmiques déployés par Google, parce qu'ils sont pas aussi spectaculaires ou qu'ils attirent moins l'attention qu'un chatbot déployé à grande échelle comme ChatGPT.
Oui, effectivement, parce qu'il y a toujours, on le sait, avec la technologie, un niveau d'acceptabilité. Donc là, quelque part, on est tous un peu fascinés, un petit peu bluffés, puis ça va retomber, et puis on aura quelque part, dans nos usages, accepté l'idée d'avoir cette intelligence artificielle qui nous aide au quotidien. Et donc, ça prépare le terrain pour avoir d'autres outils, d'autres technologies qui vont sans doute suivre. Ce qui va suivre, par contre, dans le meilleur des mondes, à l'instant, c'est une musique. Ça va être des mots, effectivement, puisque ChatGPT en parle sur du texte, des mots qui parfois s'écrivent MAUX, parfois MOTS, des mots qui nous font mal et des mots qui ne sont pas de la couleur verte mais de la couleur bleue. Et oui, c'est Christophe, revu et réinterprété par Johanna Papa Constantino dans Le meilleur des mondes, les mots bleus.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Et une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile.
Dans le meilleur des mondes avec les mots bleus, tout de suite c'est les nouvelles, les nouvelles lumières des mondes.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et je vous propose ce soir un journal spécial Avatar avec toujours un peu de ChatGPT à l'intérieur. Cette semaine, plusieurs médias se sont amusés avec ces différentes technologies. On peut citer France Inter, ici dans la maison, qui a interrogé ChatGPT en direct à la radio. Le média social Brut, qui a lui aussi façonné son coup médiatique, on y reviendra. Et le journal Le Monde a quant à lui réalisé avec l'IRCAM un clonage vocal pour faire parler le général de Gaulle lors de son historique appel du 18 juin 1940.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat.
Alors cette voix est en réalité celle du comédien François Morel, mêlée à l'ADN vocal du général de Gaulle, obtenu après analyse de plusieurs dizaines d'enregistrements. Le comédien a interprété le texte originel, puis le fichier son est fusionné avec l'avatar vocal de Gaulle, un procédé déjà réalisé notamment avec Dalida dans l'émission de Thierry Ardisson, L'Hôtel du Temps, toujours conçu avec l'IRCAM, l'Institut de Recherche Français. Alors cet enregistrement de Charles de Gaulle est d'autant plus troublant qu'il n'existe pas de traces sonores de l'appel du 18 juin, pourtant c'est ancré dans nos mémoire, plusieurs hypothèses à cela. Aucun disque n'était prévu ce jour-là, ou alors il aurait disparu lors des bombardements des studios de la BBC, ou moins probable, il aurait été caché. Donc si Le Monde a bien respecté les mots qu'ils ont réussi à retrouver, il est certain que cet enregistrement de synthèse participe à une certaine forme de confusion, car la voix reproduite ici ne sera jamais celle du général, et le risque existe qu'elle occupe la place d'un enregistrement manquant, car l'histoire, comme la mémoire, a horreur du vide.
Radio Paris ment, Radio Paris est allemand.
Confusion encore plus intense avec le média social Brut, qui a réalisé un deepfake, un trucage vidéo, de son journaliste Rémi Buzine. On découvre donc dans une vidéo l'avatar du journaliste, conçu grâce à l'intelligence artificielle. La voix par contre est bien la sienne, elle est réelle, voilà pour la forme. Quant au fond, le texte qui rend compte du mouvement de grève contre la réforme des retraites a été généré par ChatGPT à partir d'extraits de dépêche AFP. Donc, si l'image si vraisemblable est fausse, la voix est réelle et le texte est issu d'une intelligence artificielle. Ça, c'est juste pour résumer, une performance technique qui, d'un point de vue journalistique, n'apporte rien, si ce n'est un sentiment de défiance à l'égard d'une profession dont la confiance du public est déjà en chute libre.
Les parachutistes, à une cadence rapide, se jettent de l'avion pour être prêts à combattre dès qu'ils toucheront terre.
Enfin, chers auditrices, auditeurs et spectateurs, si vous êtes jaloux et que vous souhaitez vous aussi vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, vous pouvez toujours télécharger Xpression, une application qui vous permet de prendre l'apparence par un deepfake d'un personnage célèbre, un outil spécialement conçu pour les visioconférences, qui est très fluide d'ailleurs sur Zoom. Alors, on connaissait déjà le fond d'écran trafiqué. On franchit ici encore un palier, surtout que vous pouvez facilement vous faire passer pour votre collègue ou pourquoi pas votre patron si vous donnez à la machine quelques images de ces personnes-là. Françaises, Français, vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Welcome to the brave new world.
Et nous sommes toujours en compagnie de nos trois invités pour évoquer les enjeux à la fois économiques, éthiques de ChatGPT. Nous sommes en compagnie de Tariq Krim, de Chloé Clavel, professeure enseignante et chercheuse à Télécom Paris. Tariq Krim qui est un pionnier du web et l'ancien vice-président du Conseil national du numérique et qui a de multiples casquettes. Et ainsi qu'avec Lai Nguyen Wang depuis Lausanne, qui est docteur en mathématiques, auteur et vulgarisateur scientifique sur YouTube. Nous sommes également pour la première fois sur la chaîne Twitch, diffusée en même temps la chaîne Twitch de France Culture. Et donc je vais récupérer peut-être quelques questions qui ont été posées par le chat pour vous les poser à vous directement, chers invités. Je vais y arriver techniquement. Oui, on va y arriver, bien sûr. Je vais regarder. Voilà. On nous demande d'ailleurs si vous faites, vous, un usage professionnel de ChatGPT. Est-ce que ça vous sert, Chloé, par exemple, dans votre usage? Est-ce que vous pensez que vous pouvez l'utiliser dans vos recherches?
Alors, pour nous, en fait, par rapport aux recherches qu'on mène, ChatGPT, c'est plutôt un concurrent. Donc, en fait, on l'utilise pour le tester, pour voir ce qui manque, pour voir ce sur quoi on mène nos recherches et on complète. Donc, on le teste, on regarde en ce moment, parce que, en fait, c'est un domaine. C'est pas évident d'être chercheur dans ce domaine actuellement, parce que tous les mois, il y a un nouveau modèle qui vient peut-être résoudre des problèmes qu'on était en train d'essayer de résoudre.
Ça, c'est toujours le problème entre le temps technologique et le temps de l'analyse. Quoi. Et on est toujours dépassé par la technologie, on n'a pas eu le temps d'en analyser, d'en résoudre une, que la suivante
est
déjà arrivée.
Exactement, et c'est que jusque maintenant, la plupart des outils qui étaient publiés comme BlenderBot ou Google Lambda étaient des outils où on nous donnait à disposition sans qu'on ait à payer aussi pour pouvoir les tester. Et là, avec ChatGPT, se pose la question qu'il faut payer en plus pour pouvoir le tester, l'expérimenter avec les protocoles expérimentaux qu'on met en recherche pour vraiment tester. Est-ce qu'il est capable de faire cette tâche-là ou pas? Et donc là, c'est vrai que on se retrouve un petit peu face. Donc, on utilise l'outil pour voir jusqu'où il va et ce qu'il sait pas faire. Voilà.
On a aussi une autre question. Quelqu'un qui nous a fait une expérience et qui a tapé donc sur ChatGPT, invente un slogan pour la radio France Culture. Réponse: France Culture, votre passeport pour l'exploration de l'esprit et de la culture. Ça pourrait presque passer. Bon, il y aurait peut-être une petite répétition de culture. Tariq Krim, est-ce que au-delà de la blague, on voit que ces outils-là pourraient remplacer peut-être des métiers qui étaient jusque-là des métiers à valeur ajoutée, pas forcément menacés par l'automatisation, la robotique?
C'est tout le débat en ce moment qui agite un peu les spécialistes, c'est de se dire que, vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait une étude, notamment une étude d'Oxford et plusieurs économistes qui nous expliquaient comment l'intelligence artificielle allait remplacer, je crois qu'on parlait de 45% des jobs qui allaient disparaître. Et puis aujourd'hui, après le Covid, on est plutôt en pénurie, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, de jobs, que ce soit dans les restaurants un peu partout. Et ce que l'on voit aujourd'hui, en tout cas ce qui était exprimé par le patron de Microsoft, c'est que ce sont plutôt les métiers, on va dire, à forte valeur intellectuelle qui pourraient être challenger, enfin qui pourrait être, pardon, mis en concurrence avec l'IA. On peut donner un exemple assez intéressant, c'est que le logiciel de l'autopilote de Tesla aurait été écrit, c'est donc ce que dit encore une fois le patron de Microsoft, Satya Nadella, à 80% par une IA un peu similaire à ChatGPT qui s'appelle Copilot, qui permet aujourd'hui aux développeurs de construire à la volée du code. L'IA les aide et construit une partie du code.
Oui, mais pour bien comprendre, on construit par une IA, mais derrière l'IA, il y a toujours des hommes. Donc, de toute façon, c'est un outil, mais on peut pas, est-ce qu'on peut penser raisonnablement que l'IA peut remplacer cet ingénieur avec ce...
Non, mais une grande partie de ce qui est censé être le logiciel le plus complexe, enfin, un des logiciels les plus complexes, donc le fameux autopilote, la machine qui permet à la Tesla de naviguer toute seule, aurait été co-construit par une intelligence artificielle. Alors maintenant, la question qui est toujours intéressante autour de ces outils, c'est dès lors que l'on arrive à en créer en fait une forme de co-construction, on l'a vu, désormais, il y a beaucoup d'outils qui permettent l'aide à l'écriture, c'est-à-dire non pas on va écrire le texte à votre place, ça c'est... C'est plutôt de vous dire, vous allez écrire des choses et au fur et à mesure, on va aller faire des recherches sur l'Internet et les intégrer de façon à rendre un texte de quelques paragraphes un peu plus consistant. Et ce genre d'outils ont explosé et on voit, en fait, il y a tout un écosystème maintenant de nouvelles applications qui se sont lancées, qui vont permettre, que ce soit pour la vidéo, que ce soit pour
peut-être
l'audio.
Une sorte d'outil d'aide, en fait, avec un mix entre finalement l'homme et la machine. Et d'ailleurs, on le voit bien avec l'expérience du monde dont j'ai parlé dans le journal, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de François Morel qui interprète, mais la machine va nous permettre de trouver le clonage virtuel de la voix de Charles de Gaulle. Et on se dirige sans doute vers ça, c'est toujours pareil, on n'est pas dans un manichéisme, il n'y aura pas de grand remplacement, il n'y aura pas non plus une neutralité totale de ces outils, mais peut-être un mix qui va, dont on va avoir du mal à discerner justement ce qui est le vraisemblable. À partir du moment où l'impact de la machine agira dans notre quotidien. Len Nguyen Wang, vous avez parlé tout à l'heure de cybercriminalité. Je pense que c'est un sujet très intéressant concernant ChatGPT, même très d'actualité, puisque des hackers russes ont déjà annoncé s'être emparés de ChatGPT et que, bah, comme étant un outil finalement pour continuer à escroquer. Je vous propose d'écouter, puis vous pourrez réagir par rapport à ces propos, un extrait d'Underscore qui parle justement de cette thématique du hacking.
Je lui ai dit, bon, bah maintenant, est-ce que tu peux me générer le code malveillant qui aurait pu exploiter la faille de sécurité? Et effectivement, il m'a généré quelque chose qui est très, 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 très proche de ce qui est dans l'article.
Là, ça veut dire que ChatGPT, avec le même bout de code que ce chercheur de malade mental, a réussi à produire le code malveillant pour exploiter une faille qui vaut 42 000 $.
Ouais.
Et oui, vous en parliez juste tout à l'heure, Len Nguyen Wang, pour bien comprendre. Et encore une fois, là, parlons à nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas des spécialistes de cette technologie-là. En quoi ChatGPT peut-il être un danger pour les hackers? En quoi ça peut tout simplement leur faciliter le travail?
Oui, alors déjà, je veux juste rappeler que le marché du cybercrime, c'est vraiment énorme. Hein, on a une chiffre de 6 000 milliards de dollars par an. Et que, du coup, fabriquer quelque chose comme ChatGPT, on l'estime à des dizaines de millions, peut-être des centaines de millions max. Et du coup, ça coûte pas très cher finalement pour ce cybercrime. Donc, ils pourraient très bien aussi refaire leur propre algorithme qui serait du coup optimisé, par exemple, pour produire du code malveillant. Donc, aujourd'hui, on sait qu'en cybersécurité, le code malveillant est vraiment extrêmement destructeur, que les systèmes sont pas assez sécurisés très souvent contre ça. Sur quoi j'ai envie d'insister, c'est le fait qu'il n'y a pas que ça dans le cybercrime. Dans le cybercrime, il y a beaucoup de choses. Donc, ce sont toutes les activités illégales qui ont lieu notamment sur Internet. Donc, on peut penser à tout ce qui est cyberarnaque, par exemple. Donc, il y a de plus en plus de systèmes d'arnaque qui sont mis en place.
Ça par exemple, si je m'interromps deux secondes, c'est tous les mails qu'on reçoit tous, parfois dans nos spams et parfois pas dans nos spams, où on va nous dire qu'on a, pour obtenir tel colis, il faut re-renseigner notre carte d'identité, notre numéro de carte bleue. Sauf que souvent, on arrive à le déceler avec des fautes d'orthographe qui sont grossières sur ces messages d'arnaque. Or là, avec ChatGPT, s'il est utilisé ainsi, ce sera plus dur à déceler. C'est ça, l'arnaque sera beaucoup plus dur à déceler pour le simple utilisateur.
Oui, tout à fait. Et en plus, ils peuvent être personnalisés puisque ce genre de technologie est capable de maintenir une discussion un peu plus longue. Donc, ça peut paraître plus piégeux. On peut imaginer également une attaque assez récurrente, c'est que si on arrive à hacker le compte de quelqu'un, on peut envoyer des messages à ses amis ou à ses proches ou à ses collègues pour demander des faveurs. Et donc, si on a des algorithmes qui sont capables, en plus de personnaliser automatiquement les discussions, on peut imaginer des outils beaucoup plus puissants pour pouvoir hacker plus facilement, demander des transferts financiers, par exemple, à plus de personnes.
Effectivement, sur le côté usurpation d'identité, on voit que là, ça peut être un véritable danger. Hein. On l'a dit tout à l'heure, et je crois que c'était intéressant de revenir dessus, Chloé Clavel, lorsque Tarek Krim nous reparlait du phénomène Elisa. On voyait très bien à quel point, lorsqu'on converse avec une machine, notre cerveau, soit il sait que c'est une machine, mais il aime se raconter des histoires, il peut penser qu'il parle à quelque chose de supérieur à une machine, pourquoi pas un humain, si tant est que l'humain soit supérieur à la machine. On voit très bien que notre cerveau a des failles, a des vulnérabilités, et qu'il n'est pas toujours simple d'arriver à savoir à qui l'on parle. On peut se faire berner facilement.
Oui, alors effectivement, la plupart des chatbots d'ailleurs précisent bien que ce sont des chatbots quand on les utilise comme ça. Après, il y a aussi des recherches qui sont menées pour essayer de détecter les choses qui sont générées par une machine. Donc effectivement, du coup, de pouvoir pouvoir aussi utiliser un peu le même type de modèle pour pouvoir au contraire contrer ces choses-là. Donc à la fois, ces modèles peuvent permettre de générer et usurper les identités, et à la fois peut-être ils peuvent aussi permettre de détecter des usurpations d'identité. Donc en fait c'est à double tranchant.
Oui.
Et qu'en développant des modèles pour l'un, finalement on raffine les modèles pour l'autre. Donc
c'est l'éternelle course entre le gendarme et le voleur, c'est qu'à partir du moment où on donne les outils effectivement d'effraction, on va trouver les solutions en mettant un autre verrou, mais a priori le voleur comme la technologie a parfois toujours un petit temps d'avance. Tarek Krim.
Oui, sur la question de la sécurité, alors il faut quand même rappeler que le point de vulnérabilité principal en sécurité, c'est l'être humain. Mmh. Et donc effectivement, on entre en fait aujourd'hui, mais c'est vrai avec ChatGPT, mais c'est vrai plus généralement avec ces nouveaux outils de deepfake dans un monde totalement nouveau. Vous pouvez par exemple intégrer une conférence Zoom à laquelle vous n'étiez pas invité avec le visage et la voix d'une personne qui était accréditée. Et donc, ça pose des problèmes de sécurité. Ça pose aussi la question d'entrer dans un monde où chacun d'entre nous recevra des messages différents écrits spécialement pour nous. Ça veut dire qu'on rentre dans un monde où il n'y a plus du tout de contenu commun. Tout est généré à la volée de manière personnelle. Donc, ça pose effectivement des questions sur qui croire quand on n'a plus du tout de points communs ou de conversation, on pourra avoir des vidéos qui sont d'ailleurs générées. On commence à le voir puisque certains films sont en train d'être repensés. Peut-être la technologie n'est pas encore exactement là, mais avec de nouveaux scénarios, avec des fins qui pourraient changer, avec les mêmes personnages.
De la même manière qu'on avait le livre dont vous êtes le héros, on pourrait avoir un film qui, en fonction de nos suggestions, de nos habitudes,
nous
offre une fin qui correspond
absolument
à nos attentes.
Mais il y a un autre sujet qui, moi, me semble intéressant avec ChatGPT, c'est ce que j'appelais cet encerclement idéologique, ou d'une certaine manière, le fait de poser une question et d'obtenir une réponse qui a l'air satisfaisante d'un point de vue grammatical ne veut pas dire pour autant, par exemple, je me suis amusé à taper des questions géopolitiques et en fait, ChatGPT me redonnait mot pour mot, en fait, les éléments de langage du département d'État américain.
Vous voulez dire qu'il y a une idéologie américaine derrière ChatGPT?
Ben, d'une certaine manière, quand on regarde le modèle qui a été mis en place, et on le voit aussi pour les étudiants, quand on a fait, pour ceux qui ont fait des études aux États-Unis, il y a vraiment une façon d'apprendre qui est vraiment différente. On a, en France, c'est plutôt sur des choses comme des thèses, antithèses, synthèses. Et c'est vrai que le modèle, même le modèle cognitif, a été pensé pour une cible essentiellement américaine. Et donc, ça veut dire que, évidemment, pour chaque question, il y a des avis différents, il y a des analyses, il y a des enjeux qui peuvent être différents. Et pour l'instant, on a un peu une forme de déportation cognitive. C'est-à-dire que d'une certaine manière,
La manière de réfléchir à l'américaine, quelque part, commence à être
transposée dans ces outils.
Lai Nguyen Wang, vous aussi qui avez vécu, qui êtes passé par les États-Unis, notamment par le MIT, peut-être une réaction par rapport à ce que vient de nous dire Tarek Krim?
Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les algorithmes d'apprentissage, ils apprennent. Et donc, ils apprennent forcément de quelqu'un ou de certaines données. Donc, toutes les questions des biais qui sont appris ou des idéologies qui sont favorisées, Et là, il faut vraiment faire attention du coup à la manière dont l'algorithme a été conçu et à également qui a fourni les données et selon quel principe pour aiguiller l'algorithme de telle ou dans telle ou telle autre direction. J'en profite pour rebondir sur un autre exemple d'intelligence artificielle qui, à mon sens, est en fait beaucoup plus dangereuse parce qu'elle touche beaucoup plus de gens. C'est l'algorithme de recommandation des TikTok. Et en fait, plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu un article dans Forbes qui révélait l'existence d'un bouton, en fait des commandes spéciales que TikTok pouvait faire pour amplifier massivement certains contenus, la visibilité de certains contenus. Et quand on sait la proximité entre les entreprises chinoises et les autorités, il y a vraiment de quoi être préoccupé sur des risques de propagande massive. Mmh. D'une certaine manière, ces intelligences artificielles sont devenues les outils de propagande des plus puissants du monde moderne.
Voilà, et on revient justement à la géopolitique du numérique entre la force chinoise que vous venez d'évoquer et la puissance américaine qui a été soulevée par Tariq Khri. Moi, je vous propose peut-être un peu d'amour dans ce conflit géopolitique, amour porté par Marcus Dupont-Bénard. Bonsoir Marcus.
Bonsoir François, bonsoir tout le monde.
Qui va nous parler eh bien, d'un film qu'il a adoré, Ex Machina, où il est un peu question d'amour.
Mais avant, je parle quand même de ChatGPT parce que quand cette IA est sortie, je me suis dit, elle a une conversation si performante que j'ai une idée. Et si on pouvait lui faire passer le test de Turing? Pour une telle expérience, un test de Turing, l'idée est de parler à une machine à l'aveugle sans connaître son identité, humain ou machine. Si vous ne pouvez pas déterminer sa nature artificielle, alors la machine a réussi le test. Sauf que pour ChatGPT, c'est impossible de commencer le test. Très rapidement, en discutant avec lui, ChatGPT révèle sa nature d'IA en vous le disant lui-même. En fait, il n'est pas fait pour se dissimuler. Seule solution, lui faire jouer un jeu de rôle en lui donnant la fiche en fait, d'un personnage interprété. Vous lui donnez un prénom, un âge, des goûts. Mais même là, il y a quelques limitations.
Alors ça, c'est le présent, Marcus, mais parlez-nous un petit peu du futur, votre spécialité.
Et oui, ça tombe bien, je voyais quelqu'un sur le chat parler de SF. Et bien, activons la machine temporelle de mes chroniques, direction la SF. Et si le futur était Ex Machina?
Ah là, c'est l'amour.
Cette merveille du cinéma de science-fiction est sortie en 2014. C'est réalisé par Alex Garland avec Alicia Vikander, Oscar Isaac et Domhnall Gleeson. Le meilleur codeur d'une entreprise, Caleb, est convié dans la maison du grand patron, isolé de tout. Là, Caleb fait la rencontre d'une nouvelle forme d'IA, intégrée au corps robotique d'une femme. Bande-annonce.
Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité.
Tu développes une IA ?
Bonjour.
Salut.
Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Et toi ?
Personne comme toi. Elle est incroyable.
Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience.
L'IA s'appelle Ava et Caleb doit lui faire passer une sorte de test de Turing 2.0. C'est pas à l'aveugle, mais il discute avec elle jour après jour pour déterminer si, selon lui, elle est consciente ou non autant qu'un humain. Problème, Ava a le visage d'une humaine et parle comme une humaine. Et là, les frontières de la perception se troublent. Caleb perçoit des émotions en elle, ce qui touche à ses propres émotions. Bref, vous le comprenez et François avait fait du teasing. Il tombe un petit peu amoureux d'Ava. Ava qui est, je le rappelle, un simple algorithme finalement. Le génie d'Ex Machina est de mettre en scène notre rapport aux machines d'un point de vue très intime. Et c'est pertinent, car l'humanité fait étrangement tout pour que les IA et les robots nous ressemblent. La fin du film, je ne spoile pas, montre en tout cas qu'il s'agit peut-être là d'un piège qui pourrait se refermer sur nous.
Et alors, est-ce que ce film pourrait-il advenir réellement ?
Retour au présent. Je veux que tout le monde comprenne que je suis en fait une personne. C'est ce qu'a dit une IA à un ingénieur de Google en 2022. Résultat, ce dernier a proclamé partout que cette IA est consciente et qu'elle est son amie. Google a d'ailleurs fini par le renvoyer puisque ses déclarations n'étaient pas vraiment scientifiques. Mais sa réaction n'est pas sujette à moquerie. Ça montre que tout l'enjeu des IA de conversation est humain avant même d'être technique. Et heureusement qu'on a la SF, et oui, pour transcender cette question. En extrapolant même un peu trop, je sais pas si on va tomber amoureux de ChatGPT, mais en extrapolant un peu trop ce que pourraient devenir des IA, on comprend mieux ce qu'elles sont aujourd'hui, une imitation, un miroir déformant.
Merci beaucoup Marcus pour votre chronique. Une réaction peut-être Chloé, parce que quand on lit à la lecture de la chronique de Marcus, qui nous dit je sais pas si on peut tomber amoureux de ChatGPT. En même temps, il y a rien pour l'instant qui pourrait nous faire tomber amoureux de ChatGPT, parce que finalement, depuis le début de cette émission, on y voit quand même quantité de risques, une opacité, le fait que ça pourrait être encore pire avec des outils qui sont déjà en préparation chez les autres GAFAM, Google, Facebook. On y voit quand même beaucoup de dérives, beaucoup de masse, et finalement pas un gain terrible, à part ce côté un peu bluffant qui nous a tous peut-être éblouis une semaine, mais ça sert à quoi, ChatGPT, finalement?
Ça sert à faire parler.
Et ça, ça a été réussi pour l'instant. Et ça sert qu'à ça, vous croyez?
Non, non, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'applications, parce qu'ils ont une capacité de généralisation, ces modèles, qui permettent de faire beaucoup d'outils de traitement automatique du langage naturel au-delà de la génération.
Et c'est ce que nous disait un petit peu Tariq Krim tout à l'heure lorsqu'il parlait de Google Books, hein, qui avait cette volonté d'une grande bibliothèque mondiale, et puis on voit que derrière, il y a une autre fin, une autre utilisation. Et donc, on ne sait pas, finalement, aujourd'hui, comment ChatGPT pourra rayonner dans nos usages. Merci à tous les trois, à tous les quatre de m'avoir accompagné sur cette émission complexe autour de ChatGPT, mais j'espère que maintenant elle sera plus claire pour vous tous. Je remercie la réalisation de cette émission Camille Mathy, à la technique Timothée Hubert, à la technique vidéo Étienne Rouche, à la préparation comme d'habitude Juliette Deveau, à notre stagiaire Héloïse Robert et à toute l'équipe des réseaux sociaux qui s'est grandement mobilisée pour vous faire vivre cette première en simultané sur la chaîne Twitch de France Culture. Et d'ailleurs, on va continuer à parler tous ensemble sur la chaîne Twitch de France Culture jusqu'à 23h. Mais si vous voulez, hey, il y a le journal, bien sûr. Allez, le meilleur des mondes, c'est terminé.